Radio Grand Ciel présente Histoire d'en savoir plus, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Jean-François Roland. Au micro, Christiane Blain. Je reçois aujourd'hui le lieutenant-colonel Cyril Debussy, qui a pris la tête de l'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile à Nogent-le-Rotrou le 22 juin 2017. Il succède au colonel Stanislas Rouquayrols, qui rejoint Paris auprès de la direction de la coopération de sécurité et de défense. Colonel Debussy, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors je sais que vous êtes marié, que vous avez 4 enfants, mais j'aimerais bien connaître votre parcours militaire après avoir fait Saint-Cyr Couette-Quidan.
Exactement, donc je suis sorti de Saint-Cyr en 1998 et j'ai ensuite servi à l'école d'application de l'arme blindée cavalerie pour apprendre mon métier de chef de peloton de char, ce qui m'a permis un an plus tard d'aller servir comme lieutenant à Olivet, au sud d'Orléans, aux portes de la Sologne, comme chef de peloton de Charles Leclerc. Au cours de ces 3 années, j'ai effectué 2 opérations extérieures, la première en Côte d'Ivoire en 2000 et puis la seconde au Kosovo en 2002.
En Côte d'Ivoire, c'était dans quel but ?
Alors, c'était à l'époque, avant que la guerre n'éclate en 2002, c'était des forces prépositionnées françaises, donc en mesure d'intervenir en cas de troubles, problèmes de sécurité en Côte d'Ivoire, voire dans l'Afrique de l'Ouest. Voilà, donc ça, c'était ma première mission de jeune lieutenant, le Kosovo en 2002. Et puis, à l'été 2002, j'ai été affecté à Mourmelon. Dans un autre régiment de chars qui s'appelait le 501e 503e régiment de chars de combat, où j'ai exercé successivement les fonctions d'officier adjoint en escadron, puis de capitaine commandant d'escadron de chars. Voilà, au cours de ces 4 années, j'ai encore effectué 2 missions en Côte d'Ivoire, en 2003, dans la région de Yamoussoukro, dans le centre du pays, et puis en 2004...
Toujours pour le même but.
Alors là, c'était la guerre avait éclaté, il s'agissait d'empêcher les forces en présence de rentrer à nouveau en conflit, donc en 2003, donc, dans la région de Yamoussoukro. Sur une ligne de confrontation qu'il fallait conserver libre de toute circulation de force en présence. Et puis en 2004, à Korogo, donc dans l'extrême nord du pays, toujours dans une logique semblable, au milieu de la partie nord du pays qui était à l'époque aux mains des forces qui étaient opposées au gouvernement. Voilà. En 2006, j'ai quitté Mourmelon pour rejoindre l'école de cavalerie, cette fois-ci comme instructeur et non plus comme stagiaire, où j'ai formé pendant 3 ans les lieutenants, les capitaines, des sous-officiers également. Au cours de ces 3 années, j'ai préparé le concours de l'école de guerre que j'ai réussi en 2008 pour débuter ma scolarité à Paris, scolarité de 2 ans entre 2009 et 2011. Au cours de la première année de l'école de guerre, j'ai effectué une nouvelle mission, une nouvelle opération extérieure au Liban, où j'étais officier français inséré dans un état-major de brigade interarmée italien, où j'ai exercé les fonctions de chef de bureau planification, c'est-à-dire que je préparais la manœuvre future au profit donc de la brigade italienne qui avait la responsabilité du secteur ouest, donc toute la partie occidentale du sud Liban. Voilà.
Et alors comment vous êtes venu justement dans cette unité vous aviez choisi cette unité
Alors, quand j'ai réussi le concours de l'école de guerre, la direction des ressources humaines de l'armée de terre m'a contacté pour me proposer une forme de réorientation. J'étais officier de cavalerie, mais...
Oui, parce que c'est quand même très différent.
Exactement, c'est un métier bien différent, même s'il est toujours exercé par des militaires. Mais bon, j'étais officier de cavalerie, on m'a proposé une réorientation, puisque en cavalerie, les besoins en officier supérieur breveté de l'école de guerre sont inférieurs au regard de ce qui est devenu notre armée de terre, sont inférieurs au nombre d'officiers de cavalerie ayant réussi l'école de guerre. Je suis Saint-Cyrien, mais je suis entre guillemets un vieux Saint-Cyrien, c'est-à-dire que j'ai intégré Saint-Cyr à 22 ans alors que la moyenne intègre à 20 ou 21 ans. C'est suffisamment discriminant pour, à l'époque, poser au gestionnaire de me proposer une réorientation. Réorientation que j'ai bien évidemment acceptée, que j'ai un petit peu provoquée ou suggérée au gestionnaire. J'avais entendu parler des unités d'intervention et d'instruction de la sécurité civile comme étant particulièrement intéressantes, très opérationnelles et exaltantes pour l'exercice du commandement. Et j'ai eu la chance d'être retenu pour rejoindre en 2011 ma première affectation dans ce nouveau domaine.
Et alors en 2011, donc, vous étiez...
Donc en 2011, en sortant de l'école de guerre, j'étais affecté à Asnières-sur-Seine à l'époque, à l'état-major des formations militaires de la sécurité civile sur un poste de chef de section formation dans ce qu'on appelait le bureau emploi. Donc j'avais en charge pour 2 ans, jusqu'en 2013, toute l'organisation et la conduite des opérations de formation du personnel pour faire en sorte que dans les unités en particulier, que ce soit les officiers, les sous-officiers ou les militaires du rang, les gens disposent des bonnes qualifications pour remplir leur mission dans un cadre d'emploi où s'est développée année après année une immense polyvalence.
Oui. Donc, Nogent le Rotrou, c'est vraiment ce que vous désiriez avoir comme poste.
Nogent le Rotrou, c'est l'aboutissement de cette réorientation,
oui, c'est ça.
Donc a été validée alors que j'entrais à l'école de guerre, qui s'est concrétisée dès la sortie de l'école de guerre par une première affectation, que j'ai complétée en 2013 jusqu'en 2015 par 2 années de service à l'UISC7 de Brignoles,
oui,
qui est l'unité jumelle de celle de
oui,
Nogent le Rotrou, où j'étais
le
chef du bureau opération instruction, donc en charge de toute la préparation opérationnelle et de la conduite des missions de l'unité pendant 2 ans.
Donc,
je suis revenu à l'état-major en 2015 comme chef d'état-major pour 2 ans, donc le bras droit du colonel qui commande l'ensemble des formations militaires de la sécurité civile. Donc l'aboutissement de ce parcours, c'est depuis 7 mois, un petit peu plus de 7 mois maintenant, l'exercice du commandement du régiment basé à Nogent le Rotrou.
Mais nous sommes très heureux que vous veniez et que vous soyez arrivé à Nogent le Rotrou. Alors, une question aussi que je me pose, votre épouse, quel va être son rôle ? On parle toujours de l'officier, mais l'épouse, c'est aussi beaucoup de choses à faire finalement. Et surtout, je vais dire, à la sécurité civile.
Alors, l'épouse d'un chef de corps, où qu'il serve, que ce soit en sécurité civile ou dans l'armée de terre traditionnelle, le rôle de l'épouse d'un chef de corps, je considère qu'il est très important.
Chacun, oui, alors ça, je trouve que c'est bien que vous le disiez, ouais, parce que souvent les gens ne se rendent pas compte que, en fait, vous êtes tous les deux indispensables, je dirais.
On est indispensables si on met du cœur sa mission et qu'on considère qu'elle est importante. En l'occurrence, rien n'est vraiment écrit s'agissant du rôle de l'épouse d'un chef de corps. Mais en ce qui me concerne, et mon épouse partage les mêmes convictions que moi, je considère que nous avons quelque chose à donner dans la vie du régiment, quelque chose qui pour moi est essentiel, qui consiste principalement à créer du lien entre les conjoints principalement et, si c'est possible, si le personnel militaire l'accepte, arriver de temps à autre à faire tomber les frontières qu'il existe entre la sphère professionnelle avec toutes ses contraintes et puis la sphère plus privée, familiale, qui elle aussi a ses contraintes décuplées, j'estime, par la réalité de notre métier de sapeur-sauveteur, soumis pour la plupart d'entre nous à un régime d'astreinte opérationnelle extrêmement sévère, exigeant, revenant souvent et donc ayant nécessairement des implications importantes sur la vie familiale et la disponibilité que nous pouvons avoir pour nos conjoints et enfants.
Voilà, et elle s'est bien adaptée aussi à la sécurité civile de Nogent.
Je pense qu'elle s'est bien adaptée. Mon épouse a un naturel très ouvert et ne crée pas de barrières entre les différentes catégories de personnel comme parfois certains pourraient le penser. C'est bien l'épouse du chef de corps, mais ça peut être l'ami ou la confidente ou celle qui partage des moments avec n'importe qui au régiment, quel que soit son grade et son ancienneté.
Oui, parce que nous allons le voir, vos soldats sont, enfin je ne sais pas si on dit soldats, mais en tout cas...
On dit bien soldats, oui.
On dit bien soldats, eh bien ils doivent être prêts à partir toujours, et j'imagine que leurs épouses ne sont pas toujours prêtes elles-mêmes, donc je pense que le rôle de votre épouse doit être effectivement très important.
Il peut être important si les gens acceptent
de
jouer le jeu ou de participer à quelques activités qui sont organisées, mais ce qui est sûr, c'est que le personnel militaire, du plus jeune des soldats jusqu'au colonel, est soumis à un régime d'astreinte qui est exigeant. Le régiment compte 567 militaires. À l'heure où je vous parle, ce sont un peu plus de 110 personnes du régiment qui doivent être en mesure de quitter le quartier En trois heures, une fois que l'alerte est donnée. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'alerte est donnée, dans des horaires un peu atypiques ou pendant le week-end ou des jours fériés, le personnel dispose de moins d'une heure pour rejoindre le quartier, faire ses sacs, en l'occurrence, ils sont déjà faits, charger du matériel, monter dans des véhicules pour partir sur le territoire métropolitain, ultramarin ou à l'étranger. Ça, c'est la situation qu'ils décident.
Oui, c'est vraiment toujours prêt quand on est appelé.
Exactement. Être prêt en permanence sur le plan administratif, sur le plan sanitaire, sur le plan familial, c'est un vrai défi.
Oui, c'est certain. Voilà. Je pense que c'est très intéressant que vous le fassiez remarquer parce qu'on ne s'en rend peut-être pas assez compte, mais en fait, votre idéal, c'est de sauver les autres, d'être là pour aider les autres.
Exactement. La mission principale du régiment et des militaires de la sécurité civile, c'est bien d'être au service de leurs concitoyens ou de populations étrangères soumises à des catastrophes naturelles en particulier. Oui.
Voilà. Alors sur le plan historique, les formations militaires de la sécurité civile ont été mises en œuvre par le général de Gaulle après une catastrophe meurtrière à Fréjus en 1959. Donc après, eh bien, il y a eu ce développement de la sécurité civile.
Donc chronologiquement, la première unité à avoir été créée est celle de Brignoles.
Oui.
Quelques années après la rupture du barrage de Malpassé, effectivement en 1959. Donc l'unité la plus ancienne, l'unité opérationnelle la plus ancienne est bien celle de Brignoles.
Et alors c'est ce qu'on appelle le numéro 7.
Exactement, l'UISC7, unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile numéro 7, dont les 40 ans ont été célébrés il y a quelques années, en 2014, alors que j'étais d'ailleurs chef du bureau opération de cette unité.
Oui.
Aujourd'hui, en 2018, à Nogent-le-Rotrou, nous allons bientôt célébrer les 40 ans d'existence de l'UISC1, qui est implanté à Nogent non pas depuis 1978, mais depuis 1981, reviendra peut-être à mon successeur, main dans la main avec l'équipe municipale, de célébrer les 40 ans de l'U1, comme on l'appelle communément à Nogent-le-Rotrou. S'agissant de mon commandement, moi je m'attacherai à célébrer les 40 ans de la création de l'unité à l'occasion en particulier d'une prise d'armes qui sera organisée à côté du quartier, donc sur le stade Saint-Jean, le 8 juin prochain.
Bien, on le redira dans la deuxième partie. Si vous le voulez bien, nous allons marquer une pause musicale. Je suis toujours avec le colonel Debussy et nous évoquons l'USC de Nogent-le-Rotrou. Alors d'abord, il faut bien savoir ce que signifie ce sigle. C'est l'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile qui est à Nogent le numéro 1. Qui aussi, existe aussi dans d'autres villes. Alors, lesquelles ?
Donc, tout à l'heure, quand j'évoquais cette fameuse catastrophe de la rupture du barrage de Malpassé, oui. La première UISC qui a été créée, eh bien celle de Brignoles dans le Var, qui est l'UISC 7. Donc elle a été créée officiellement, au moins dans son organisation actuelle, en 1974. On a célébré en 2014 les 40 ans d'existence de cette unité. Un petit peu plus tard, en 78, a été créé l'UISC 1. Encore quelques années plus tard, en même temps qu'était créé le commandement des formations militaires de la sécurité civile, c'est-à-dire en 1988, cet état-major qui chapeaute l'ensemble des régiments de sécurité civile, était créé en Corse l'UISC 5, basé sur la commune de Corté, en Haute-Corse. Dans les années 90, pendant quelques années, a existé une quatrième UISC, l'UISC 4, qui était basée à Rochefort, dont la mission principale, avec un petit effectif, comme celui de l'U5 en Corse, était principalement de constituer des forces prépositionnées pour lutter contre les feux de forêt sur la façade atlantique.
Oui,
elle a été dissoute en 1999.
Oui, parce que vos missions, en fait, sont proches de celles des sapeurs-pompiers.
Alors certaines missions, ou la plupart de nos missions, sont effectivement assez proches de celles des sapeurs-pompiers territoriaux. Notre mission en tant que moyens nationaux, c'est bien d'apporter un renfort dans différents métiers, principalement aux sapeurs-pompiers territoriaux sur le territoire national, que ce soit en métropole ou outre-mer. Ce renfort, historiquement, il existe d'abord sous la forme d'un renfort dans la lutte contre les feux de forêt.
Oui.
Donc ça, c'est un savoir-faire qui a été développé d'emblée au sein des UISC, que ce soit à Brignoles, à Nogent-le-Rotrou ou en Corse, et même à Rochefort pour le temps d'existence de l'UISC 4. Et puis, petit à petit, les UISC ont développé d'autres savoir-faire. Aujourd'hui, je considère que ce sont des unités ultra polyvalentes. Elles sont connues et reconnues pour cela. Donc que ce soit en particulier à Brignoles ou à Nogent, l'éventail ou le spectre des compétences est extrêmement large. Bien évidemment, le risque technologique est l'un des savoir-faire de nos unités, que ça touche au risque chimique ou au risque radiologique. Nous luttons aussi beaucoup en renfort des pompiers territoriaux sur tous les phénomènes d'inondation avec un certain nombre de moyens, véhicules et équipements particulièrement performants qui permettent de pomper, qui permettent de produire de l'eau potable, qui permettent de contenir certaines crues avec des barrages anti-inondation. Donc ça, c'est le troisième savoir-faire emblématique après les risques technologiques et le feu de forêt. Et puis, autre savoir-faire historique des formations militaires de la sécurité civile, le sauvetage d'éblement, c'est-à-dire l'intervention sur les tremblements de terre qui interviennent dans les pays qui sont touchés et qui demandent l'assistance internationale.
Oui, alors voilà. Justement, peut-être une question se pose. Quand vous faites des sauvetages comme ça, qui sont parfois très impressionnants parce qu'il y a beaucoup de morts, d'accidentés, et vos hommes doivent être très touchés, psychologiquement, j'entends. Comment faites-vous pour essayer de qu'ils reviennent et qu'ils soient prêts à recommencer, parce que c'est ça.
Alors de manière préventive, dans le cadre de la préparation opérationnelle et de l'entraînement de nos sapeurs-sauveteurs, on s'attache à développer chez chacun d'entre eux une certaine forme de rusticité, de résistance au stress, donc à travers l'entraînement qui leur est dispensé. Entraînement qui n'est pas spécialement ou exclusivement technique, par rapport à un savoir-faire particulier. En l'occurrence, sur un tremblement de terre, on travaille des savoir-faire de sauvetage d'éblement, mais le savoir-être est important, et ce savoir-être, on essaye de le travailler à travers des activités d'entraînement physique, des activités de cohésion, des activités d'aguerrissement, où les gens vont puiser physiquement, mentalement dans leurs ressources pour faire face aux événements, faire face au stress, faire face aux contraintes auxquelles ils sont confrontés. Ensuite, dans le temps de la mission, si il s'avère qu'elle peut être potentiellement très traumatisante du fait de la présence de victimes, oui, vivantes ou décédées, gravement blessées. Effectivement, il y a des traumatismes potentiels qu'on s'attache à prévenir par une forte cohésion dans les détachements, par une attention mutuelle à d'éventuels traumatismes qui pourraient s'exprimer. Et puis, à la fin de la mission ou dans les jours ou semaines qui suivent un retour de mission potentiellement traumatisant, ben, la surveillance demeure avec l'appui de spécialistes, bien évidemment le service médical de l'unité, qui est le conseiller dans ce domaine-là du chef de corps, mais avec des cellules spécialisées, avec des soutiens de psychologues le cas échéant, qui peuvent venir en appui de manière à réparer d'éventuelles blessures et puis permettre aux gens d'être résilients et puis de se consacrer à nouveau à la préparation opérationnelle et d'être disponible à l'engagement aussi vite que possible dès le retour d'une mission potentiellement traumatisante.
Et avec vous, vous avez plusieurs médecins à la caserne
Alors au régiment, nous avons actuellement deux médecins.
Deux médecins, un psychologue.
Il n'y a pas de psychologue. Psychologue, si on en a besoin, bon, on les sollicite oui. Par ailleurs.
Alors, bien sûr, on se demande si vous êtes vraiment dans la continuité de votre prédécesseur. Nous l'avions reçu. Et voilà, j'aimerais bien savoir si bien votre politique, si je puis dire, va continuer dans le même sens.
Alors, je connais bien mon prédécesseur. Je connaissais même son prédécesseur. J'ai toujours communiqué autour de la continuité que je souhaitais... appliquer à mon commandement par rapport à l'action du colonel Rouquayrol. J'ai la chance et l'honneur de commander un régiment tourné entièrement vers l'engagement opérationnel. Donc cette mission principale, bien évidemment, je m'efforce de la remplir au quotidien pendant tout le temps où je serai à la tête du régiment. Et puis ce régiment qui, non pas depuis sa création, mais presque, est implanté à Nogent-le-Rotrou, j'entends... jour après jour ou semaine après semaine, qu'il s'intègre toujours mieux dans son environnement local, de façon à ce que le personnel qui y sert, les familles, puissent se sentir au régiment comme sur la garnison et dans ses environs immédiats, à l'aise et heureux d'y séjourner. Voilà, donc c'est un point extrêmement important. Il y a la mission opérationnelle et puis il y a tout l'aspect humain qui tourne autour de tout ça. Et c'est l'une de mes responsabilités de faire en sorte que le personnel, même s'il n'est que de passage, soit bien sur la garnison pour pouvoir être totalement disponible à sa mission, les deux étant pour moi intimement liés.
Oui. D'ailleurs, la ville de Nogent-le-Rotrou est très, très heureuse de vous avoir.
Ça... Oui. Et puis, on a pu le mesurer encore il n'y a pas très longtemps. Donc, entre septembre et novembre, le régiment a été fortement engagé avec plus de 200 de ses hommes aux Antilles, suite au passage des ouragans Irma et Maria, principalement. Le régiment a été engagé... principalement sur l'île de Saint-Martin, mais également en Guadeloupe et sur des îles autour de la Guadeloupe. Et pour marquer le retour du détachement et puis le fait que finalement les sapeurs-sauveteurs de Nogent-le-Rotrou aient été au cours de cette mission un petit peu les ambassadeurs de leur terre d'accueil, Monsieur le maire nous a reçus en sa mairie avec une centaine d'hommes début décembre, juste avant notre cérémonie de Sainte-Barbe, pour marquer ce retour et puis manifester ainsi l'attachement de la commune à ses sapeurs-sauveteurs.
Oui. Alors, à propos de la Sainte-Barbe, moi j'avais assisté l'an passé et il y avait un détachement de jeunes qui venaient du Château des Vaux. J'avais été très émue parce que le porte-fanion avait fait un discours et vraiment j'avais remarqué dans ses mots, d'une part, sa volonté de montrer qu'il était heureux d'avoir trouvé une famille, en quelque sorte. Alors, je me demandais, est-ce que vous allez poursuivre cette œuvre qui me semblait vraiment très, très importante pour ces jeunes qui, quelquefois, sont à la recherche d'une famille. Or, vous semblez être comme une famille.
J'espère, et en tout cas, c'est sûr qu'il faut que nous soyons une famille. La communauté des militaires ne peut remplir sa mission que justement si cette fameuse maison régimentaire est une réalité au quotidien. Cette année encore, le régiment a reconduit le partenariat qui le lie avec le Château des Vaux Et une fois par mois, nous accueillons entre 10 et 20 jeunes pour les encadrer et leur permettre d'acquérir ou de consolider un certain nombre de savoir-faire. Et au-delà de la technique ou des techniques que nous leur enseignons, bien évidemment, comme vous l'avez dit, il s'agit bien aussi de leur manifester ou de leur délivrer un certain nombre de valeurs qui font que, alors qu'ils ont été éprouvés par la vie, ils peuvent avoir autour d'eux un cadre qui les sécurise et qui leur donne un certain nombre de repères. Voilà, donc ce partenariat demeure. Je ne sais pas combien de temps il durera, mais aussi longtemps que du côté du Château des Vaux comme du régiment, avec les directives d'ailleurs du ministre de l'Intérieur, ce partenariat pour moi est appelé à durer.
Alors j'en viens à nos gens. Peut-être 560 sapeurs-pompiers, c'est ça, sapeurs-sauveteurs.
567 sapeurs-sauveteurs, effectivement, voilà. auxquels s'ajoutent, non pas sur la garnison de Nogent, mais dans l'organisation régimentaire, depuis le 1er janvier 2016, ils font partie intégrante. Et il existe en région parisienne, à Méry-sur-Oise exactement, 31 personnels civils qui font partie intégrante du régiment et qui concourent à la mission opérationnelle à travers des opérations de maintenance au profit des véhicules et équipements du régiment. Et puis la mise en œuvre et la gestion des stocks de ce qu'on appelle des équipements de la réserve nationale qui nous permettent d'intervenir au profit de nos concitoyens ou à l'étranger en mettant en œuvre un certain nombre d'équipements pour les opérations de sécurité civile.
Vous avez des femmes ?
Nous avons des femmes. Le pourcentage de féminisation du régiment est autour de 12%.
Ah oui, c'est bien quand même. C'est bien parce que pour une femme, c'est extrêmement difficile quand même.
Ça peut l'être. Nous avons une population jeune et bien portante. Et physiquement, le contrat pour chacun, qu'il soit homme ou femme, mais effectivement, c'est d'être physiquement apte à remplir des missions parfois longues et éprouvantes.
Alors, combien de véhicules ?
Oh, ce sont plusieurs dizaines, mais au moins 120 ou 150 véhicules au régiment.
Alors, je voudrais également vous demander très rapidement les grandes dates de cette année, puisqu'il va y avoir des anniversaires. Donc, pour cette année 2018, vous allez avoir...
Donc, la cérémonie de commémoration des 40 ans de la création de l'unité aura lieu fin d'après-midi, début de soirée. L'horaire n'est pas encore définitivement arrêté. Donc, le 8 juin, sur le stade Saint-Jean, prise d'armes de commémoration des 40 ans de la création de l'unité.
Voilà.
Suivi le samedi 9 et le dimanche 10 juin par les journées portes ouvertes du régiment, qui, sur la garnison et dans la région... Sont connus oui. Et s'organisent, ont lieu une fois tous les deux ans.
Eh bien, un grand merci à vous, colonel. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pourrez nous retrouver sur notre site internet www.radiocranciel.fr. Merci infiniment, colonel Debussy.
Merci, Christiane Blain. Bonne continuation à vous.